c'est l'histoire d'une famille, enfin, surtout de deux filles et de leur père qui vont emménager dans une nouvelle maison, donc qui est assez à l'abandon. Et il va y avoir plein de petits trucs un peu fantastiques.
La petite tombe sur un gros nounours adorable.
Il crie un petit peu plus tard dans le dessin animé.
Il aide un peu les deux filles. Par exemple, le passage où il fait pousser leurs graines dans leur jardin.
Il ressemble un peu à un lapin, je trouve. Un lapin, un âne de profil aussi.
Il y a un chat qui est un bus.
Oh, moi, je trouve que c'est trop drôle. Tu peux le voir un peu à tout âge parce qu'il y a plein de choses de référence, de petites choses de la vie aussi que tu comprends quand t'es plus grand, sur le travail, sur la maladie, sur... quand t'es enfant, tu crois ou tu crois pas, et puis finalement il y a un petit truc qui te fait y croire, et puis d'un seul coup tout apparaît, j'aime beaucoup.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mais où vont-ils chercher tout ça? On se pose la question parfois en lisant des romans ou des BD, en regardant des films ou des séries, parce que certaines idées ont l'air presque magiques. Les histoires qu'on nous raconte semblent soudain sortir d'un chapeau merveilleux. Et s'il est un film qui représente bien cette magie de la fiction, c'est Mon voisin Totoro, dessin animé japonais sorti en 1988 et qui n'a pas pris une ride, un chef-d'œuvre signé Hayao Miyazaki. Totoro, c'est une drôle de bestiole un peu impressionnante, une très grosse peluche, moitié chat, moitié panda, qui tient un parapluie à la main, surtout quand il ne pleut pas. Avec Totoro, on peut planter une graine et regarder pousser un arbre gigantesque en quelques secondes. Avec Totoro, on peut grimper sur une toupie volante pour atteindre la canopée et s'extasier. Avec Totoro, on peut voyager dans un chabus, un félin volant à 12 pattes qui dépose ses voyageurs à l'arrêt. Assurément, il y a quelque chose de magique dans cette histoire, mais c'est surtout pour mieux nous apprendre à voir la magie qui est autour de nous, le spectacle de la nature. Grâce à Totoro, n'oublions pas de nous émerveiller. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Et je suis très heureuse d'accueillir deux invités de marque, deux créateurs de fiction pour la jeunesse, mais qui embarquent aussi les grandes personnes. L'un est dessinateur et cinéaste, l'autre est romancière. Bonjour Benjamin Reyner.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter.
Ben, merci de m'accueillir.
Ernest et Célestine, c'est vous. Vous avez co-réalisé ce film sorti en 2012, César du meilleur film d'animation, film adapté de l'œuvre de Gabriel Vincent. Formidable histoire d'amitié entre une petite souris et un gros ours. Vous êtes aussi le co-réalisateur du Grand méchant renard, César 2018, du meilleur film d'animation, ça vous fait donc deux Césars. Le grand méchant renard, c'est l'adaptation au cinéma de votre bande dessinée parue chez Delcourt. Mais donc, vous êtes ici en tant que fan, Benjamin Reyner, fan de Miyazaki et de Totoro en particulier. Alors, dites-moi d'abord, question importante, qu'est-ce que c'est comme animal, Totoro ?
Alors, bonne question. J'aimais beaucoup les comparaisons faites dans le petit micro-trottoir qu'on a entendu tout à l'heure, parce que c'est vrai que Totoro, moi j'ai l'impression qu'on est assez proche de l'ours, d'une bête comme ça, mais après c'est marrant parce que ça a l'air d'être un animal fantastique, mais elle a l'air quand même très ancrée dans le réel, c'est-à-dire qu'un enfant, je pense, en voyant le film, peut se dire, comme il verrait un éléphant dans un livre d'images, s'il voit un vrai éléphant après, il reconnaîtrait, et je pense que Totoro... Il y a moyen qu'il existe quelque part, quoi. Enfin, ça reste quelque chose que je peux envisager, qui me surprendrait qu'à moitié, en tout cas.
Vous l'avez croisé, vous ?
Pas eu cette chance encore mais j'ai beau être allé au Japon, j'ai pas eu la chance de le croiser, ouais.
Ma deuxième invitée est en ligne avec nous depuis la Belgique. Bonjour Christelle Dabos.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Romancière à succès, c'est un euphémisme. Votre série La Passe Miroir, parue chez Gallimard Jeunesse, est un phénomène de librairie. Série en 4 tomes qui frôle le 1 million d'exemplaires vendus. Ça a été imaginé pour la jeunesse, mais les adultes le lisent beaucoup. Hein. Les fiancés de l'hiver, Les disparus du clair de lune, La mémoire de Babel et La tempête des échos, ça c'est le tome 4. Une saga qui raconte les aventures d'Ophélie, jeune femme qui a un pouvoir, elle peut lire le passé des objets et elle peut aussi traverser les miroirs. Mais vous aussi, Christelle Dabos, vous êtes là en tant qu'admiratrice aujourd'hui, admiratrice de Miyazaki. Dites-moi à votre tour, s'il vous plaît, c'est quoi comme animal, Totoro ?
Alors, je me suis posé la question tout du long, je me suis dit, il a quelque chose, effectivement, comme disait Benjamin, de l'ours, du hibou, je trouve qu'il a un petit côté hibou.
Moi aussi, je trouve que c'est moitié chat, moitié hibou.
Du chat. C'est une chimère, hein, littéralement, ils ont dû mixer, j'avais toujours un nouvel animal qui me venait à l'esprit et ça fonctionnait.
Et qu'est-ce que tu en penses, toi, Totoro ?
Waouh.
Je crois qu'il a besoin de réfléchir encore. Mon voisin Totoro, film de Hayao Miyazaki, dessinateur et cinéaste japonais, c'est le cofondateur des studios Ghibli. On lui doit aussi Le Château dans le Ciel, Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, Ponyo sur la Falaise ou encore Le Vent se lève. Tous sont disponibles, je le précise, sur Netflix. Que des merveilles donc, mais Totoro est à part. J'espère que vous n'allez pas me contredire là-dessus, Benjamin Renner.
Non, clairement, ouais. C'est, je pense que déjà c'est le film qui a une iconographie la plus forte, quoi. C'est-à-dire que Totoro, moi, je l'ai vu assez tard, en fait. Je l'ai vu, je devais avoir une vingtaine d'années, je commençais mes études, et pourtant l'image de Totoro qui attend sous la pluie, c'était quelque chose que je connaissais déjà. Donc c'était un peu dommage parce qu'on perdait un peu la surprise. C'est pour ça que maintenant, dès que j'ai un neveu ou une nièce qui naît, je harcèle mes frères et sœurs pour leur montrer Totoro dès le plus jeune âge, pour qu'ils puissent justement avoir la fraîcheur de la découverte. Oui, non, c'est clairement une œuvre, déjà, qui a marqué son temps, et puis je pense que narrativement aussi, elle sort complètement des sentiers battus, même dans l'œuvre de Miyazaki, même si l'œuvre de Miyazaki est quelque chose qui sort des sentiers battus énormément, parce qu'on n'est pas dans une narration classique avec à chaque fois un méchant, des choses comme ça. Et là, ouais, moi, pour moi, Totoro, c'était vraiment un film qui m'avait marqué aussi, parce qu'on est dans quelque chose qui n'est pas le méchant, il y a pas vraiment d'histoire à proprement parler, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de très un quotidien, une sorte de routine qui va être un petit peu perturbé par la présence de cet animal, mais on va pas avoir les axes dramatiques qu'on a l'habitude de voir ce qu'on a un peu étudié dans les écoles de cinéma, acte 1, acte 2, acte 3, le chemin du héros, ces choses-là. Mais en tout cas, ouais, je sais que ça sortait un peu des sentiers battus pour ça, quoi.
Et vous, Christelle Dabos, vous l'avez vu enfant, Mon voisin Totoro?
Ah non, mais j'aurais bien voulu. En fait, j'ai découvert Miyazaki assez tardivement, exactement comme pour Benjamin, j'avais plutôt une vingtaine d'années. Ça a commencé avec Le Voyage de Chihiro, qui quand il était sorti au cinéma.
Premier grand succès de Miyazaki en France, hein.
Et je pense que c'est ça qui a fait toute la dynamique et qui après a ramené au premier plan des œuvres qui étaient antérieures, mais qui ont peut-être été découvertes plus tardivement. Pour moi, j'ai un cheminement personnel qui est très très lié à Miyazaki.
Ah, donc on peut annoncer aux très très nombreux lecteurs et lectrices de la Passe Miroir que tout ça c'est grâce à Miyazaki.
Je pense vraiment que ça a été une claque que je me suis prise visuellement, et je sais que quand je suis sortie de là, je me suis dit mais s'il y avait moyen de traduire en mots ce que lui fait avec les images. Et ces images qui sont sans cesse en mouvement, ça foisonne de détails, c'est tout le temps changeant. Les apparences, surtout dans Le Voyage de Chihiro, sont extrêmement trompeuses. Et à partir de là, je me suis intéressée au reste de l'œuvre. Mon voisin Totoro, si je ne me trompe pas, je pense que c'est mon frère en fait qui me l'a fait découvrir. Puis après, moi, j'ai décidé de montrer à toutes les personnes de mon entourage. Il y avait quelque chose que j'avais ressenti lors de ce visionnage et que je voulais faire. Je me suis dit, il faut que je l'initie d'autres personnes. Et la question que, effectivement, comment est-ce que j'aurais réagi si je l'avais découvert en étant toute jeune? En 88, j'avais 8 ans. Donc, je suis curieuse de savoir comment je l'aurais vécu.
Alors, c'est l'histoire de deux petites filles, deux sœurs, qui s'installent avec leur père dans une maison à la campagne. Elles déménagent parce que leur maman est hospitalisée, donc elles s'installent pas loin de l'hôpital. Et elles vont rencontrer dans la forêt cet étonnant Totoro, qui ne parle pas, hein, Totoro grogne. Alors, Totoro est-il un monstre? Les enfants et les ados que notre reporter a rencontrés se sont posé la question.
Gris avec un pelage blanc sur le ventre, très grand. Il a des grandes moustaches, des oreilles un peu étranges qui se finissent en triangle et des grands yeux, une grande bouche.
C'est comme une grande peluche qui est très gentille.
Il me fait beaucoup rire, c'est très. Il parle pas du tout, donc c'est juste des gestes et c'est toujours très exagéré, donc c'est assez enfantin et assez drôle. Il est grand, donc ça, en premier lieu on pourrait penser que c'est monstrueux tout ça, mais du coup finalement pas du tout, et puis il est. C'est ça, je trouve, qui est bien dans ce dessin animé, c'est que c'est vraiment trouver une autre manière de décrire les monstres d'enfance, parce que il a montré que ce qu'en apparence pouvait être un monstre, en fait, finalement, c'est la plus belle des légendes pour ces deux petites filles. Pour moi, c'est pas du tout un monstre, du coup, c'est ça qui est bien, c'est que tu qualifies quelque chose d'extraordinaire et qui est utilisé normalement pour faire peur à des enfants, n'allez pas dans la forêt, voilà. Là, c'est plutôt allez vous promener, allez, vous le trouverez peut-être, vous le verrez peut-être.
Mais il est adorable et il est tout doux. Il a l'air tout moelleux, un peu comme un lit. Quand la petite sœur le rencontre, elle monte dessus en plus.
quand il baille, genre au début, on voit sa bouche, elle est toute petite, puis quand il baille, on voit sa bouche grandir, grandir. C'est, bah, c'est un monstre, ça fait pas peur quand on connaît pas, ça fait un peu bizarre, mais après, on dit oui, non, il a l'air gentil, oui.
En fait, il est assez imposant quand on le voit la première fois, mais après, il est super gentil, c'est comme une grosse peluche.
C'est pas une histoire qui fait peur, ça fait plutôt rire.
Propos recueilli par Caroline Pommès. La particularité de ce film, en effet, c'est qu'il n'y a pas de méchant. Ça n'est pas rien, ça, Benjamin Renner.
Pour moi, en tout cas, c'était une vraie surprise parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très cinéphiles. En tout cas, ils avaient presque tous les Disney classiques de l'époque. Puis ils nous emmenaient beaucoup au cinéma pour voir des films. Donc moi, j'ai une éducation narrative, enfin cinématographique très occidentale. C'est-à-dire vraiment les films d'animation Disney dans lequel, bon, bah, il y a le méchant, il y a le gentil, la gentille et tout ça. Donc de découvrir Totoro, ça a été qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je m'amuse? Pourtant, il n'y a pas de méchant. Enfin, je prenais beaucoup de plaisir à voir le film, quand bien même il n'y a pas une narration classique. Et du coup, ouais, ça rendait le film très très juste. Et là, dans les analyses qu'on entendait du micro-trotteur, je trouve qu'il y a des très très bonnes analyses, notamment sur la découverte du monde, sur l'ambiguïté de Totoro aussi, parce que c'est vrai que à chaque fois que je le revois, moi, je suis toujours frappé par à quel point Miyazaki a vraiment pris soin de le montrer dans ses aspects. Évidemment, il est doux, il est mou, tout ça, mais on voit bien ses dents, on voit bien qu'il a une grande bouche.
Et quand il baille, c'est pas très rassurant.
Et le point de vue, il y a un plan comme ça où il baille et on voit, enfin, la caméra est dans la bouche de Totoro et on voit que Mei, la petite fille, rentre complètement dedans et il y a même la place pour la grande sœur avec. Hein. Et moi, je trouve ça assez très intelligent de sa part, et puis très beau, en fait, c'est justement cette manière de parler de la nature, en fait, qu'il y a quelque chose de monstrueux, mais c'est dans l'observation, tout ça. Enfin, voilà. En tout cas, l'analyse qu'on a entendue tout à l'heure, je la trouve très, très juste.
Ouais. Christelle Dabos, vous êtes d'accord avec ça? Personnage ambigu, Totoro?
Effectivement, comme dit Benjamin, c'est l'absence, en fait, d'antagoniste. Et moi-même, j'avais longtemps baigné dans les Disney où le méchant est très clairement identifié. Et ça m'a poussé à me poser d'autres questions, et dans le bon sens, et de voir que parfois, il n'y a pas forcément la force d'opposition, on n'est pas forcément dans un personnage. Et là, même, il y a d'autres situations, comme la maladie de la maman, la tendance qu'a May à systématiquement se perdre.
May, c'est la petite sœur.
Moi, le premier visionnage, j'attendais presque le moment où Totoro allait se révéler plus inquiétant que rassurant. Mais à chaque fois, j'étais étonnée. Je me dis non, c'est vraiment effectivement la grosse peluche avec ce côté parfois impressionnant, hein, quand avec cette mâchoire incroyable qui produit des sons tout aussi dantesques. Alors, je ne sais pas si on pourrait lui attribuer une moralité, parce que ça se traduit pas en ces termes, mais il a quelque chose un peu de l'esprit. On peut pas trop l'humaniser. Au final, il est très réconfortant. C'est une force fondamentalement positive.
On met un petit moment à le rencontrer dans le film. Le début du film se passe sans lui. On va écouter un premier extrait. L'un des passages qui me touche le plus, je crois, dans Mon voisin Totoro, c'est la découverte des noiraudes. Les Susuwatari en version originale, de petits machins qui se cachent dans les recoins de la maison et qui ressemblent à des oursins volants.
Barba truc de Dorothée Barba sur France Inter.
Hein? Qu'est-ce que c'est? Vous avez joué avec des boules de suie?
Mais non, ce sont de drôles de petites bestioles rondes qui volent dans toute la maison et disparaissent soudainement.
Oui, ces bestioles se plaisent bien dans les vieilles maisons vides et humides. Elles se font des petits nids invisibles et transforment tout en poussière. Moi aussi, j'en voyais souvent quand j'étais petite fille. Et je suis heureuse de savoir que vous avez la chance de les voir.
Alors ce ne sont pas des fantômes?
Non, il n'y a pas de fantômes par ici, mon brave monsieur.
Ah.
Les noiraudes, pour s'en débarrasser, il suffit de parler fort et de rire aux éclats. En général, ça les fait fuir. D'ailleurs, je suis sûre qu'en ce moment même, elles se concertent pour trouver le moyen de quitter la maison.
Et pour la petite histoire, c'est Mélanie Laurent qui fait la voix française de Satsuki, la grande sœur dans le film. Pour s'en débarrasser des noiraudes, il faut rire aux éclats. Elle est magique, cette idée, Benjamin Renner.
Ça fait partie, moi, je trouve, de cet écart qu'il y a entre notre société occidentale, qui n'a pas du tout grandi avec la culture japonaise. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement inconnu pour nous. Parce que après avoir découvert Le Voyage de Chihiro, Totoro, enfin toute l'œuvre de Miyazaki, moi, je me suis beaucoup intéressé à toute le folklore japonais et tout ça. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, le film est très, très ancré dans le folklore japonais. Et la grand-mère donc des héroïnes évoque, oui, donc c'est des créatures.
Alors c'est qui... la voisine, hein, pas. C'est la voisine.
Ah, la voisine, oui, oui. Elle fait un peu peur au début, ouais.
Et finalement,
ouais.
Elle est sympa.
Ah oui, bah, elle est, ouais, tout, comme toutes les grand-mères, un peu. Elle a un petit côté sorcière, comme ça, qui fait un peu peur. Mais je pense que le Totoro, les Noirottes, on peut retrouver un peu l'équivalent dans le folklore japonais. Et je pense que Miyazaki s'en est largement inspiré. En tout cas, c'est, quand on les découvre, c'est un pur bonheur, quoi.
Ce que suggère la voisine, Christelle Dabos, c'est qu'on ne les voit plus quand on grandit, les Noiraudes. Il y a là derrière l'idée que les enfants ont un pouvoir magique.
Déjà, j'étais frappée, c'est par la longueur accordée à l'emménagement proprement dit. Je crois que ça représente une vingtaine de minutes. Les 20 premières minutes, c'est ça, en fait. C'est l'emménagement dans la maison.
Avant que n'apparaisse Totoro, donc.
Oui. Ça, je parle juste de la première journée d'emménagement. C'est ça aussi qui est formidable. C'est un autre espace-temps, Miyazaki. Il prend son temps pour montrer toutes les petites choses du quotidien. Et donc, cet emménagement, justement, moi, j'ai fait des associations parce que je viens juste de moi-même de déménager. Et j'ai eu tout du long, mais ces images qui m'ont parcouru où je voyais les petites sœurs courir dans la maison sur les planchers, avoir tout cet espace et cette maison, voilà, qui prend vie au fur et à mesure avec les fameuses Noiraudes, ces esprits. Et on vient d'emménager avec mon compagnon et la nuit on entend des bruits dans la maison qu'on n'arrive pas à identifier.
Ah bah voilà, cherchez pas plus loin.
Alors moi j'essaie de prendre ça avec le sourire en me rappelant les paroles pleines de sagesse de la voisine. Et justement par rapport à ce personnage de la grand-mère, ça c'est une autre chose que j'apprécie beaucoup dans les films d'animation de Miyazaki. Je crois qu'il y a pratiquement toujours une figure d'une personne comme ça âgée, mais les vieux entre guillemets dans ces films d'animation, ils sont pleins de vitalité, ils ont quelque chose aussi à transmettre. C'est pas du tout des figures de sénilité, ils ont vraiment leur place dans l'histoire, et ça aussi ça m'a beaucoup parlé. En fait, de façon générale, enfin, dans mon voisin Totoro, je trouve qu'il y a une légèreté, quelque chose de très pétillant, et c'est extrêmement communicatif. Et cette fameuse scène de la nuit, la première nuit qu'il passe sur place, où c'est un peu inquiétant, il y a des bruits, il y a le vent qui s'infiltre partout, et c'est le père qui se met à rire aux éclats, ils ont des expressions, les personnages à ce moment-là. Mais comment ne pas rire pendant cette scène ?
Dorothée Barba, sur France Inter.
Je suis dans la vie comme dans mes rêves, et quand je crève, je suis le cri de qui me croit ou qui me prie. Je suis comme ça dans la vie, je renie jusqu'à mon sang, et je ne sens plus qui je suis. Il n'y a plus d'innocents. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute que quand j'ai bu, mais vu que je suis à nu, plus personne avec qui ruminer mes envies. Et vif sans avoir l'air, cher comme un courant d'air, derrière la vie mon frère pleure de me voir si triste. Dans mes rêves, ils ont tout pris, tout pris. Le monde crève, mais on sourit. C'est un rêve, ou ma folie, folie. Les gens rêvent, et puis oublient. Je suis dans la vie comme dans mes rêves, sans trêve, je voudrais que crèvent tous les artifices pacifistes. Je n'en suis pas moins en colère, j'aimerais bien que la chair se rebelle à la terre. Je rêve que les rues d'Hollywood se fendent en deux, les stars au coude à coude et les pauvres au milieu. Plus rien sur la montagne, désespoir démenti, plus rien que la complainte pathétique des nantis. Je rêve tous les soirs quand je suis dans mes songes, les visages émaciés qui s'en vont vers les tombes, les fantômes obscurs des rues sans objectif, les rêves à la chaîne d'un beau pays fasciste. Il y a dans les yeux toujours un peu d'espoir. Je veux dans le noir y croire, toujours y croire. Même les chiens n'en peuvent plus d'obéir à leur maître. Je ne serai jamais à eux. Ce matin, il fait beau et je signe avec mes doigts le sang d'hier qui sèche vivra à travers moi. Et toi, nous irons danser comme tous les samedis. Je ne pense qu'à rêver, que les étoiles oublient, quand les cœurs et les corps sont au même BPM. Je m'oublie et puis j'oserai te dire que je t'aime. Dans mes rêves,
C'était PR2B, choisi par notre programmateur musical Jean-Baptiste Audibert. Barbatruc est porté par une équipe aussi attachante que ce bon gros Totoro. Mao de Butler à la préparation, Christophe Imbert à la réalisation et Pierre-Yves Derolin à la technique. Nous parlons cette semaine du film de Miyazaki sorti en 1988, Mon voisin Totoro. Un dessin animé indémodable, universel. La romancière Christelle Dabos et le cinéaste dessinateur Benjamin Renner sont mes invités parce qu'ils aiment énormément ce film. La nature tient une place très importante dans cette histoire. Les deux sœurs et leur père s'installent, on le disait, dans une nouvelle maison à la campagne. Elles explorent les environs, ces deux fillettes, et elles s'émerveillent. C'est ce qui a frappé les enfants et les ados à qui nous avons tendu le micro.
Dans Totoro, on s'imagine un monde où il n'y a pas beaucoup de pollution. Mais je crois que c'est parce qu'ils sont dans un petit village. Mais
moi, j'aime bien aussi quand elles rentrent dans l'arbre. Moi, j'aimerais bien aussi être petit pour aller dans des endroits, alors que là, je peux pas trop.
Moi, des fois, je vois des animaux dans la forêt et j'essaye de leur parler, mais ils ne comprennent pas.
Tu passes plus de temps à regarder et à découvrir la nature quand t'es enfant, je trouve. Le moindre truc devient merveilleux. Donc une fleur, une feuille par terre, le nombre de feuilles que les enfants ramassent en automne est incroyable. Et là, c'est ça, elle trouve des glands, elle va suivre les glands pour finalement trouver Totoro. Donc c'est vraiment un rapport à la nature qui est très doux. Et quand j'étais petite, je passais mon temps dehors. Et du coup, j'adorais aller me promener en forêt, grimper partout aux arbres.
Les sapins, je croyais qu'ils marchaient. Parce qu'il bougeait avec le vent. Je pensais qu'il bougeait vraiment, enfin qu'il se déplaçait.
Dans Totoro, on voit un moment où en fait, c'était un peu un rêve et pas trop un rêve parce que le lendemain, il y avait des petites pousses, mais dans leur sorte de rêve, c'était un grand arbre au début, mais vraiment un arbre super bien, super beau.
À la forêt, proche chez nous, papa et nous, on a trouvé des cabanes et papa, il a fabriqué une cabane.
Moi, je me dis qu'on pourrait pas vivre sans la nature. Parce qu'on n'aurait pas de tomates, de concombres, d'avocats. Et aussi, j'imagine que les arbres y vivent et que les fleurs aussi.
Souvent, je pense que les fleurs, ça a des yeux, que ça peut parler, que ça a une bouche et que c'est pareil qu'un humain, sauf que c'est une fleur.
Je préfère plus la mer et la plage, etc., que la forêt, mais... Il y a plein d'activités dans la nature à faire en fait.
C'est juste que j'habite dedans, du coup je la respecte. Et, j'adore voir des animaux de la nature et plein de choses comme ça. Des chevreuils, des biches, des oiseaux, des aigles.
Oui, je me sens petit par rapport à elle et moi j'essaye plutôt de faire attention à tout ce qui est déchets, etc.
La nature et Miyazaki, vu par des enfants de Haute-Savoie et de Seine-et-Marne. Je me tourne vers le dessinateur. Qu'est-ce qui vous frappe, Benjamin Renner, dans la nature telle qu'elle est montrée par Miyazaki dans Mon voisin Totoro?
En fait, moi, ce que j'avais adoré dans le film, bon, déjà, elle est représentée de manière très, très fidèle. Et en termes d'art artistique, je trouve que vraiment, on parlait du son aussi, enfin le vent, tout ça, ça fourmille de détails qui sont extrêmement bien observés. Vraiment, le film est très très bien pour ça. Mais moi, ce que j'avais adoré justement dans ce film, en le découvrant, c'est qu'il m'a fait un peu l'effet d'une Madeleine de Proust géante par rapport à la manière dont j'ai découvert moi la nature en fait, et Totoro, je trouve qu'il nous remet complètement dans l'émotion qu'on peut avoir quand on découvre pour la toute première fois un têtard en vrai. Enfin, je veux dire quand on est dans la nature et qu'on découvre une créature, parce qu'il y a Totoro, mais on parle pas, on a parlé des Noiraudes aussi, mais il y a aussi deux petits compagnons qui accompagnent Totoro.
Des mini Totoro,
voilà, qui ont des pouvoirs qui sont jamais vraiment expliqués. Il y en a un qui manifestement arrive à devenir transparent, il y en a un, enfin, et ils se promènent avec des glands, tout ça. Enfin, ils ont tout un, et on sent qu'il y a toute une réflexion derrière, qu'ils ont leur rôle dans la nature, qu'ils font des choses très précises, et que dans la tête de Miyazaki, c'est très clair ce qu'ils font. Dans le film, c'est pas forcément énormément expliqué. Et c'est ça qui fait qu'on a, enfin, moi, je retrouve complètement ça en tant qu'enfant, c'est-à-dire qu'on va voir quelque chose, on comprend pas très bien, un têtard, on comprend pas exactement ce que c'est qu'après qu'on comprend peut-être que ça va être une future grenouille et ainsi de suite, que la nature a des lois, des logiques, des règles. Et voilà, et du coup, en voyant Totoro, j'ai retrouvé cette espèce de sentiment d'enfance, qui une sorte de piqûre de rappel de bah non, c'est pas fini, il faut continuer à découvrir les choses. Ce sentiment-là, tu peux encore l'avoir, et je l'ai encore régulièrement quand moi je me promène dans la nature en redécouvrant des insectes ou des choses comme ça, en me disant ça, j'ai découvert une nouvelle espèce, je regarde sur internet, non, elle existe. Enfin, tout le monde l'avait trouvée avant, mais j'avais l'impression de l'avoir déjà trouvée. Enfin, c'était une découverte, quoi.
Explorateur du quotidien, donc, grâce à Miyazaki.
Exactement.
C'est en se promenant dans la forêt que la petite sœur Mei rencontre pour la première fois Totoro. Souligner la qualité des dialogues. En tout cas, c'est magique. Même sans les images, Christelle Dabos, quel effet cette scène vous fait-elle?
Effectivement, là, rien qu'en entendant les grognements, les onomatopées, j'arrive à reconstituer toute la scène, étape par étape. Et je revois cette montagne de fourrure, ces moustaches qui batifolent dans tous les sens. Et c'est vrai, cette rencontre entre Mei et Totoro, c'est vraiment, voilà, c'est la première fois qu'on le voit. Au début, je ne savais pas vers quoi on allait se diriger, si c'était une créature qui était plutôt inquiétante, monstrueuse ou amicale.
La petite
Mei, elle a peur de rien.
Ouais, Mei n'a pas peur. Et d'ailleurs, les enfants qu'on a interrogés ont très peu peur de Totoro. Cette inquiétude, c'est peut-être un regard d'adulte sur le film.
Alors ça, c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, je me suis posé la question, comment est-ce que j'aurais vécu ça si je l'avais visionné à 8 ans, par exemple? Parce que finalement, c'est peut-être tout ce qu'on va rajouter, toutes ces petites étiquettes mentales qu'on va avoir, ces petits commentaires intérieurs, qu'on n'a peut-être pas ça quand on est plus jeune. Et le grand avantage de Mon voisin Totoro, c'est qu'on reconnecte avec cette enfance primordiale qui, en fait, n'a pas disparu, c'est juste qu'elle est un peu voilée. Et ça revient au premier plan, on se rappelle. Et il y a des émotions qu'on retrouve un petit peu fraîches. Et ça fait beaucoup de bien.
C'est en explorant un arbre creux et en tombant dans un trou que la petite Mei rencontre Totoro. On peut légitimement y voir un hommage à Alice au Pays des Merveilles, Benjamin Renner. Parce que c'est en tombant dans un terrier de lapins que le personnage de Lewis Carroll accède au Pays des Merveilles.
Ah oui, d'ailleurs, Alice au Pays des Merveilles et Miyazaki, moi je sais que quand j'avais vu Le Voyage de Chihiro, j'y avais vu vraiment le conte d'Alice au Pays des Merveilles réadapté. Pour moi, oui, enfin, j'y vois vraiment des analogies très très fortes, même la manière, enfin le visage de Totoro, même le chat bus, j'espère ne pas trop dire le gâcher, hein, mais il y a un énorme chat qui fait guise de bus en même temps que fait un chat. Ceux qui n'ont pas vu le film, qui le voient pour comprendre de quoi
c'est aussi, très concret. Ça aussi, c'est très carolien.
Oui, c'est ça. Et puis il a vraiment... Moi, j'ai retrouvé la tête du chat Chester, des illustrations qui avaient été faites de Alice au Pays des Merveilles. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose de ça. En tout cas, il a certainement lu. Il a été très, très influencé par la littérature occidentale. Donc, je pense que oui, il a dû s'y intéresser de près. Ouais.
Autre hommage que j'ai envie de voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Mary Poppins, après tout, Totoro devient un peu la nounou des deux petites filles. Et il a toujours un parapluie ouvert à la main. Christelle Dabos.
Pensé jusqu'à présent, je n'avais pas fait le parallèle. Et c'est vraiment... En revisionnant le film d'animation hier, je me suis dit, mais il y a complètement quelque chose de Mary Poppins. En particulier, c'est cette scène où Totoro emporte les petites filles sur sa toupie et qu'il s'élance dans les airs avec le parapluie à la main. Là, je me suis dit, mais
Oui, rien que la gestuelle, la posture, mais c'est Mary Poppins.
Qui a pris un peu de poids, mais oui, c'est plus poilu. Quoi. C'est...
Mary Poppins avec de l'embonpoint et, voilà, et quelques poils. Alors pendant la nuit, Totoro et les deux sœurs plantent des graines magiques. En quelques secondes, une forêt sort de terre et cette forêt devient un seul et même arbre, gigantesque, immense, fabuleux. Et le matin, quand elles se réveillent, elles découvrent que leurs graines ont germé. Il n'y a pas un immense arbre, mais il y a tout de même quelques petites plantes. Et c'est quand même magique.
Barbatruc, l'arbre n'est plus là.
Oh. Hein? Ça a marché!
Ouais.
Ça a marché!
C'était pas un rêve!
C'était un rêve!
C'était pas un rêve!
C'était un rêve qui n'était pas un rêve!
Oui.
Youpi!
Ouais. Moi, j'ai mon monde, mais... Chaque fois que j'en réinvente un,
j'ai l'impression de rentrer dans un nouveau monde imaginaire avec plein d'autres choses. Bah, il y a un yéti, un loup-garou.
Ma peluche, c'était un ours, c'était Izzy. Et bah, en fait, elle faisait que de bouger. Bah, elle était sur la table, elle était en train de danser. C'était bien, mais après, des fois, il y avait des gens qui disaient que j'étais folle. Parce qu'ils disaient que ça n'existait pas.
Je pense que les enfants peuvent voir plus que les adultes parce que leur père n'a jamais vraiment prêté attention. Il croyait ses petites filles, mais...
Leur père n'a jamais vu Totoro et il ne le verra jamais parce que c'est un adulte et que c'est justement réservé un peu aux enfants et à ses deux filles. Et je pense que Satsuki, elle était vraiment à la limite de le voir et ça se sent au début où elle dit à sa sœur que ce n'est pas possible. Mais du coup, je pense que c'est un peu plus tu grandis, moins tu y as accès.
Puis le père, en fait, on ne sait pas vraiment s'il croit ses petites filles parce que lui, il dit mais oui, t'as vu ça, oui, bravo, tu pourras me le montrer. Mais c'est comme tous les pères ou les mères, ils disent ça et en fait, ils font vraiment. Peut-être qu'ils croient, peut-être qu'ils ne croient pas.
J'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, que dans les maisons, il y avait des petits trucs noirs et qu'en fait, quelquefois, on peut croire à des trucs, mais les autres n'y croient pas, alors que peut-être que ça existe.
On disait, qui est, je pense, la phrase de beaucoup d'enfants, bien on dit que, et donc c'est, on partait, il y en avait un qui dansait une idée, l'autre qui surenchérissait, et puis au milieu des jeux, il y a des fois qu'il y en a un qui sortait, oh tiens, et puis si on avait des pouvoirs. Et il n'y avait pas de souci de bah non, on n'a pas commencé comme ça, on ne le fait pas, c'est ok, cool, bah toi t'as ça, moi j'ai ça, et puis on continue. Et je pense qu'avec le temps, ça se perd un peu, cette spontanéité.
Oui, j'en avais un avec... c'était un monde de fantômes. Pour y passer, on appelait le fantôme qui nous ouvrait la porte. Et la porte pouvait être n'importe où, elle changeait souvent. Souvent, on jouait à Fantomia, ça plaît, c'était bizarre. Ni l'une ni l'autre, on n'y a jamais cru dans le sens où c'était une réalité. C'était un jeu auquel on jouait et auquel on aurait... aimé croire.
Bah moi je sais que j'ai toujours cru à l'histoire de Toy Story. C'est toujours quelque chose, je me retournais au milieu de ma chambre toute seule et je regardais tous mes jouets pour savoir s'il y en avait un qui avait bougé. Donc des fois je parlais toute seule et personne ne me répondait, mais j'avais l'impression d'entendre des gens qui me répondaient. J'ai beaucoup aimé cette période de mon enfance sur l'imagination et tout ça.
C'est vrai que ça a l'air très bien de s'imaginer un monde imaginaire, donc j'essaierai d'y penser un peu plus à l'avenir.
Voilà, très bonne résolution. Merci à toi. Merci aussi à Caroline Pomès pour ce reportage. Évidemment, on a eu envie de poser la question à ces enfants et à ces ados. Quel est ton imaginaire après cette réplique magnifique dans le film de Miyazaki ? C'était un rêve ? Ça n'était pas un rêve. Et finalement, les deux ont le même sens. Christelle Dabos, à quoi ça tient, à votre avis, que Miyazaki sache aussi bien raconter le fol imaginaire des enfants ?
Ah, je pense que lui, il a dû rester très connecté à son enfant intérieur. Et rien que d'écouter là, le micro-trottoir, mais j'ai eu une réminiscence de moi étant petite, où je me voyais avec des personnages imaginaires. Et là, je mets des guillemets parce que je suis incapable de trancher. C'était un rêve qui n'était pas un rêve. Et que des sortes de personnages miniatures que je sais que je rangeais dans mes tiroirs et j'interagissais avec, et ça me paraissait très naturel. Pour moi, il n'y avait pas de questionnement sur, bah tiens, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça n'est pas vrai? Non, c'était normal. Bah voilà, du coup, bah, ça m'a rappelé ça. Encore une fois, quelque chose que j'avais oublié, et là, qui vient de refaire surface.
Et c'est ainsi qu'on devient romancière et qu'on imagine un univers aussi foisonnant que celui de la passe-miroir.
Alors, disons que là, vraiment, c'est typiquement le genre de situation où ce n'est pas du tout moi qui suis allée chercher une idée, c'est l'idée qui a déboulé presque par, j'ai envie de dire, par l'arrière de la tête. J'ai vraiment l'impression que c'était comme s'il y avait quelque chose qui était tout au fond de la tête, et c'est ça a déboulé tout d'un coup sur le devant de la scène. Mais en une journée, j'avais voilà mon univers. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait grandi derrière moi, je m'en étais pas rendu compte, et qui s'est nourri justement de toutes ces des films d'animation de Miyazaki, et ça je ne le dirai jamais assez, de mes lectures. Je pense aussi, là j'ai fait parallèle tout à l'heure, c'est avec Narnia, et notamment ces passages qui ne s'ouvrent qu'à certaines conditions, et encore on connaît pas des conditions, mais qui ne s'ouvrent que sous certaines occasions. Dans Mosa Totoro par exemple, pour trouver Totoro, et un coup ça marche, un coup le passage se referme. Et Narnia c'est pareil, et ça m'intriguait beaucoup quand j'étais petite. J'essayais de trouver des passages pour pouvoir passer de l'autre côté de je ne sais pas quoi, mais je voulais passer de l'autre côté.
Et on continue à tourner autour de Totoro dans un instant. Voici François and the Atlas Mountain.
Barbatruc.
Tourne toujours, toujours autour. Tourne toujours. Tourne toujours, toujours autour. Tourne toujours. Je te tourne toujours autour. Toujours autour, même de loin. Je te tourne toujours autour. Toujours autour, même de loin. C'est étrange, même en plein jour, je ne retrouve pas le chemin. Je nous vois faire des détours, tu déjoues mes tours, ça ne fait rien. Tu ne perds rien pour attendre, silence, absence, demain. Je ne perds rien en retour, construis la tour qui de loin te surveille et j'y séjourne, joue la distance, prince malin. Te ferai croire que se détourne l'histoire vers d'autres lointains. Irait faire luire mes atouts aux reines aux chairs de satin. Reviendrait croiser le fer de ton cœur de chienne au besoin. Même la peau. Des sirènes, ça me fait rien, ça me fait rien.
Invités de Barbatruc cette semaine ont un imaginaire très riche, une écrivaine à qui l'on doit La Passe-Miroir, phénomène d'édition publié en 4 tomes chez Gallimard, et un cinéaste dessinateur qui a co-signé deux merveilles d'animation, Ernest et Célestine, ainsi que Le Grand Méchant Renard. Christelle Dabos et Benjamin Renner sont mes invités. Benjamin Renner qui dessine des Totoro sur son petit carnet rouge depuis tout à l'heure. Mais le fermez pas, je voulais les voir.
Je me sens mauvais élève là tout à coup.
Ils sont très jolis ces Totoro, il y en a une petite dizaine sur son carnet. Nous parlons de Mon voisin Totoro, film du japonais Miyazaki dans lequel la nature est reine, l'imagination est impératrice, le rêve est premier ministre. Mais c'est aussi une histoire un peu inquiétante, parce que la mère des deux héroïnes est malade, elle est à l'hôpital, on l'a dit. Ce film raconte la peur de perdre ceux et celles qu'on aime, un sentiment que les enfants connaissent tous, de près ou de loin.
Moi j'ai adoré, je trouvais ça assez émouvant avec l'histoire de la mère. Enfin, déjà c'est bien aussi qu'ils fassent du mal à leur personnage, parce que dans les dessins animés aussi, il y en a, tout se passe bien, c'est une vie normale, et c'est une vie de rêve. Et là, non, c'est bien aussi, quoi. Et puis oui, ça m'a un peu émue parce que
Elles sont adorables en plus, les petites filles. Alors,
quelquefois, j'ai peur de perdre plein de gens que j'aime. C'est pas facile à vivre, mais il faut faire avec.
Bah, ça fait comme une grosse boule dans l'estomac. Tu te sens pas bien, mais après, tu te dis tout le temps, il y a plein de gens qui le pensent. Si tu te dis, ça arrive tout le temps aux autres, mais jamais à toi.
Bah, par exemple, quand quelqu'un est à l'hôpital, moi, j'ai peur qu'il meure.
Je sais que j'ai déménagé, donc j'ai perdu des gens dans ce sens-là, de la distance. Et donc, je sais que c'est quelque chose d'assez compliqué. Et quand tu l'apprends un peu d'un coup, quand t'es enfant, ça fait assez un choc et tu grandis assez rapidement. Et je pense que ça se voit avec May qui va partir comme ça toute seule, alors qu'elle a peur. Et ça se voit, enfin, elle le dit à plusieurs moments, oui, j'ai pas envie d'aller aux toilettes toute seule dans le noir, maman, elle dormira avec moi. Du coup, je trouve que ça, elles ont assez grandi d'un coup quand elles ont reçu ce télégramme.
Il y a des histoires aussi qui peuvent choquer certains enfants. Par exemple, dans le voyage de Chiro, quand les parents se transforment en porc, moi, ça, j'ai pas aimé la première fois que j'ai regardé. Ça m'a, j'aimais pas trop ce moment.
Des fois, j'imagine que les rêves, c'est vrai. Et que du coup, ça m'a rendu triste parce que je savais qu'un jour, maman, elle allait mourir et que du coup, je serais toute seule. Et si on aime beaucoup, beaucoup, peut-être qu'il va revenir dans notre pensée. Alors on arrête de pleurer. C'est grâce à ça qu'on aime beaucoup après les parents.
Voilà, il y a de la tendresse, de la magie, mais aussi beaucoup de mélancolie dans ce film de Miyazaki, Christelle Dabos. C'est une histoire de deuil ou de crainte du deuil ?
Oui, ben ça m'a frappé. C'est en fait, alors que c'est très coloré, même la bande son, la bande musicale est très très joyeuse. Il n'y a pas de pathos hein, du tout, je trouve, dans ce film d'animation. Il y a quand même de nombreuses allusions à la mort. La maman qui est malade, et à chaque fois, on s'attend à ce qu'elle revienne, qu'elle vienne à tout instant rejoindre la famille dans la maison. Et à chaque fois, c'est reporté. L'attente se prolonge et ça commence à créer une petite tension. J'ai pensé aussi aux éléments de la nature eux-mêmes qui sont présentés tour à tour. Bah, c'est très lumineux, très agréable, c'est la campagne, c'est beau. Et puis tour à tour, qui peuvent aussi se montrer dangereux, mortellement dangereux. Mmh. Notamment bah, la pluie, qui est très... Il y a une scène, la scène de la pluie, du parapluie, qui est extrêmement drôle. Et pourtant, bah, cette même eau qui va vraiment représenter un danger, avec cette image de la sandale sur l'eau, sur l'étang, ça, c'est une image qui est très, très puissante.
Voilà, la petite sœur May a disparu, on la cherche partout et on retrouve uniquement sa chaussure. Effectivement, beaucoup de tensions et d'inquiétudes autour de tout ça. On peut dire, sans trop divulguer, Benjamin, à Marénère, que ce film se termine bien.
Oui, 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 ça se termine très très bien, même si, comme on l'a évoqué, c'est marrant parce que tout à l'heure on disait le film n'est pas manichéen, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Donc on a une sensation de bienveillance, enfin tout va bien, tout. Et puis finalement, dès que les choses vont mal, c'est d'une manière presque la plus angoissante que possible pour un film pour enfants. C'est-à-dire qu'on autant on va voir. Je me rappelle quand j'étais petit, je voyais Aladdin, les choses se passaient mal, mais dans mon fauteuil j'étais à l'aise parce que je sais très bien que le héros gagne à la fin, le méchant je l'ai identifié, donc tout va bien se passer. Et là, tout à coup, Miyazaki dans Totoro, et ben il va, sans être évidemment traumatisant, mais il va faire appel à des choses qui sont beaucoup plus lourdes. Dans le sens où la petite sœur va effectivement disparaître, la mère est aussi malade. Et donc, c'est des choses qui, quand on est enfant, ça nous frappe de plein fouet. Quoi. C'est presque plus effrayant, mais d'une manière sourde qu'un monstre ou quelque chose comme ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était marrant que dans ce monde tout joli, tout mignon, tout à coup, on fasse appel à des sentiments qui sont très, très forts, en fait, très, très lourds. Et pourtant, on reste dans la légèreté. Quoi.
C'est important, vous qui faites des films pour enfants, c'est important pour les enfants de voir dans une fiction quelque chose qui les inquiète à titre personnel. Cette grosse boule dans le ventre dont parlait un enfant à l'instant, Benjamin Renner.
Oui, je suis tout à fait. Moi, je sais que ça m'a beaucoup, même enfant, pouvoir finalement appréhender les soucis qu'on va avoir par la suite. Hein. Il parlait du deuil, on parlait de tout ça. Et ben finalement, de c'est un peu idiot de dire ça, mais s'y entraîner d'une certaine manière en découvrant les films, de ressentir par le biais d'autres personnages ce qu'ils vont ressentir, ça nous apprend aussi à se confronter à ça plus tard si éventuellement ça nous arrive. Et je trouve que Totoro fait ça justement avec. Enfin, il n'est pas vraiment question du deuil, hein, puisque comme on l'a dit, ça finit bien. On ne va pas dire exactement quand ça finit, mais ça finit très 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 bien. Mais en tout cas, voilà, on va avoir un petit aperçu de ce genre de sentiment, et ça, c'est une très bonne manière de mettre le pied à l'étrier de la vie. J'ai tenté la métaphore, je sais pas.
Mais c'est très joli.
Voilà. Bravo.
Et Christelle Dabos, ça sert à ça, la fiction, notamment apprivoiser la peur.
Oui, alors là, je suis vraiment, je l'ai ressenti corporellement. Rien que dans l'acte et le processus d'écriture, il y a une certaine, voilà, ça permet d'apprivoiser certaines peurs. Et moi, je sais que je l'ai vécu très fort avec la passe miroir, où j'ai eu des crises d'hypocondrie très très fortes, notamment sur le dernier tome. Je faisais des crises corporelles, d'angoisse corporelle. Je les enchaînais. Dès qu'il y en avait une qui était terminée, il y avait une autre partie du corps qui prenait le relais. Mais l'écriture me permettait en même temps de me confronter à ça et de le voir et d'aller jusqu'au bout de ça. Le but, là, c'est plus d'éviter la peur. Je sais pas, par exemple, moi, j'ai eu un problème de santé en 2008 assez important. Dans la passe miroir, je n'ai pratiquement pas parlé de maladie. J'ai parlé de toutes sortes de choses très inquiétantes et très effrayantes, mais pas de maladie. Et ce n'est que dans le dernier tome que j'ai commencé à aborder certains sujets à caractère médicaux. Et là, je me suis dit, voilà, il est temps maintenant d'arrêter d'éviter voilà, il faut commencer à regarder ça en face. Et oui. Heureusement, parce que quand j'ai terminé, j'ai posé le point final de l'épilogue du dernier tome. Mes crises d'angoisse corporelle se sont arrêtées.
La bande originale, la musique est très importante dans la poésie que dégage ce film. Écoutons un extrait de cette BO de Mon voisin Totoro. La musique de Mon voisin Totoro est signée Joe Hisaishi, comme la plupart des films de Miyazaki. Et là, on attend le prochain film du maître de l'animation. Miyazaki avait annoncé sa retraite, mais il travaille finalement sur un nouveau projet qui est baptisé « Comment vivez-vous ?» Benjamin Reiner, Christelle Dabos, vous restez avec moi. Je vais vous demander dans un instant de lever un peu le voile sur votre enfance. Mais d'abord, voici Denis Chessou et ses conseils de littérature jeunesse.
Dorothée Barbaz en France Inter. Là, tu lis, mon petit loup.
Merci Dorothée. Bah oui, c'est l'actualité du livre pour enfants avec Le Licornon de Marc Hukling et Astrid N, édition Gauthier Langros à partir de 5 ans. Au pays des rêves dorés, vous trouverez des licornes. Alors approchez, elle fête un heureux événement, la naissance d'un bébé. Il est craquant.
Tout le monde pense qu'il va s'intégrer sur le champ. Sa crinière est bien gonflée, son pelage doux comme du duvet.
Il est en tout point choupinou parfait, mais il a une petite particularité. Il n'a qu'un seul mot à la bouche, non.
Un mot génial selon lui, un mot sans lequel il ne pourrait pas vivre sa vie.
Avec un tel état d'esprit de contradiction, tout le monde finit par l'appeler Licornon. Quand son père lui demande de l'accompagner sur la colline au cyprès, qu'est-ce qu'il répond ?
Non.
Une petite sieste, aller sur un nuage douillet avec les angelots ?
Non.
Visiter les îles de la mer argentée avec son frère et quelques fées ?
Non, non.
Non, non et renom. Tout ce qu'il souhaite, c'est qu'on le laisse tranquille.
Il passe le reste de sa journée à se rouler dans la boue. Il mange des pommes ramollies jusqu'à en avoir mal au ventre.
Lorsqu'il descend vers la rivière pour étancher sa soif, il fait la rencontre d'un raton laveur.
Tu veux te laver toi aussi ? Je te fais une petite place.
Non, répond le licornon, mais le message n'est pas passé.
Quoi ?
un coaton laveur. Et les voici partis ensemble. Et sur le chemin, ils font la rencontre d'un chien de berger qui prend le soleil. Le licornon lui ordonne
« Pousse-toi, je veux me mettre là !»
Oh, le chien de berger, pas du tout apeuré, lui assène un
« Et alors ?»
Un berger alors, et deux, trois, dans le groupe des animaux ronchons. Ils prennent la direction d'une grande tour, une princesse y est prisonnière et leur demande de l'aide. Ce à quoi le licornon répond simplement
« Non !»
Et la princesse de lui rétorquer
« Si,
une princesse !» Il ne manquait plus que ça. Pas de doute, l'équipe est désormais au complet. À partir de ce jour, ils traînent ensemble, ils sont têtus ensemble. Alors, exercice périlleux que de parvenir à traduire en français cet album qui repose sur une myriade de jeux de mots, mais aussi sur une narration qui rime. On salue l'adaptation de Catherine Calangula qui rend tout vraiment l'humour, l'impertinence et la jovialité du texte, avec des protagonistes décalés et des obsessions de langage qui rappellent celles des jeunes enfants. Le Licornon aux éditions Gauthier Langros à partir de 5 ans. Une petite poignée de poèmes, c'est le titre de cette nouvelle collection aux éditions Rue du Monde. Les devinettes de la langue au chat sont signées David Dumortier, Aurélia Fronti à partir de 8 ans. Alors c'est un livre qui est très élégant, hein, petit format, 11 cm sur 15, moins de 10 euros, mais qui ouvre grand l'appétit des mots et propose un parcours ludique en poésie aux enfants.
Il a un beau corps noir et dans la nuit, on le voit tenir en son bec la lune, qu'il a encore prise pour un fromage.
Le corbeau.
C'est un quart de lune sucrée. On le mange au croisement du café de la nuit et du chocolat du matin.
C'est le croissant. Alors, devinette en rebondissant sur les sonorités ou sur les métaphores, c'est là une des toutes premières sources de bonheur poétique que les humains se sont fabriquées.
Dans chaque arbre coule la première femme du monde, c'est Ève. Ève qui serpente sous le bois pour nourrir ses milliards de branches.
C'est la sève. Alors la réponse que je vous donne est apportée juste en dessous, à l'envers. Ah, musicien peut-être. C'est une pimale, parfois à queue, qui voudrait chanter comme les oiseaux, avec des touches de noir et de blanc. C'est un.
Oui, c'est un piano.
Alors ça se met dans la poche, ça peut se lire n'importe où, n'importe quand. Ça se picore, ainsi que les 7 peintures pleines pages d'Aurélia Fronti, qui nous invitent à cueillir aussi de la poésie dans le jardin des images.
C'est un petit grain triste, resté au fond de la gorge. Un petit grain de chat qui dit « Je t'aime encore et toujours ». C'est un...
C'est un chagrin d'amour. Alors vous voyez, c'est à petite béquille de poésie que les oiseaux apprennent peut-être leur désir de ciel et de liberté. Les devinettes de la langue au chat, David Dumortier et Aurélia Fronti, à partir de 8 ans, aux éditions Rue du Monde. Merci à Xavier Pestudia pour sa réalisation, à Lucie Cosmala et Eric Oswald de Nichesso. Nous vous souhaitons de belles lectures.
Merci beaucoup Denis, on retrouve les titres des ouvrages que vous nous conseillez sur franceinter.fr à la page « L'as-tu lu mon petit loup ?». Nous approchons de la fin de cette émission. L'écrivaine Christelle Dabos et le dessinateur cinéaste Benjamin Reiner nous ont parlé, et si joliment, de mon voisin Totoro. Je vous pose à présent ma question rituelle. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance, Christelle Dabos.
Alors, j'essayais vraiment de remonter loin dans les souvenirs. Et ce qui m'est venu le plus spontanément, c'est en fait, comme je suis née à Cannes, j'ai eu cette chance de pouvoir grandir près de la mer et notamment mes parents nous emmenaient très souvent à la plage, mon frère, ma sœur et moi. Et j'ai cette odeur, mais alors très caractéristique. Alors attention, c'est un mélange de l'odeur de la mer, du sable chaud et des beignets. Et c'est ce mélange des trois là qui m'est revenu tout d'un coup. Je me suis dit, mais c'était sublime.
Les beignets qui en mettent plein les doigts là, ceux qui sont bien bien gras.
Exactement, ceux qui sont très gras et très sucrés.
Magnifique. Benjamin Reiner, même question. Quelle est l'odeur de votre enfance?
Il y a une odeur là qui en ce moment, elle a un petit peu disparu elle a disparu pour de bonnes raisons. C'est l'odeur des cinémas, en fait, le pop-corn, les trucs comme ça qui manque énormément. J'en parle parce que je trouve aussi que même aujourd'hui dans les cinémas, on sent un peu moins le pop-corn pour une raison qui m'échappe. Peut-être qu'il y a une meilleure aération. Mais j'ai le souvenir quand j'étais petit, à chaque fois que je rentrais dans le cinéma et de voir aussi la dame ou le monsieur qui se baladait avec son petit panier d'osier avec tous les pop-corn dedans qui me faisait rêver. Donc j'ai hâte en tout cas de retrouver l'odeur des cinémas tel qu'il soit. Et en tout cas, ça, quand j'y repense, voilà, ça me fait un petit peu une petite Madeleine de Proust, encore une fois, de retrouver cette odeur, quoi.
Il est riche en calories, notre cocktail olfactif de la semaine. Il y a des beignets à la plage et il y a du popcorn au cinéma. Un grand merci à vous deux. Benjamin Reiner, je recommande à tout le monde de voir ou de revoir Ernest et Célestine et Le Grand Méchant Renard. Tous les deux sont disponibles sur plusieurs plateformes de VOD. Christelle Dabos, les 4 tomes de votre saga La Passe Miroir sont disponibles en livre de poche chez Folio Gallimard. Une adaptation prévue au cinéma d'ailleurs bientôt ?
J'ai eu des contacts, que ce soit pour la bande dessinée ou pour le grand écran. Enfin, il y a des contacts, il y a des échanges. Dès que voilà quelque chose d'un petit peu officiel, je communique dessus.
Et on sera les premiers à le savoir. Merci beaucoup à tous les deux. Très belle soirée. À bientôt sur France Inter.
Au revoir.
Au revoir.